le magazine des Nations Unies.
Bonjour à toutes et à tous. Tout de suite, les principaux titres de cette édition du magazine des Nations Unies. La MONUSCO déterminée à soutenir les efforts de pacification pendant le temps qui lui reste sur le territoire de la RDC. C'est une déclaration de son numéro 2, Kassim Diagne, représentant spécial adjoint en charge de la protection et des opérations. C'était la semaine dernière à Bounia en Ituri, après avoir échangé mardi dernier avec le comité provincial de sécurité. Emploi et autonomisation de la jeunesse congolaise, la FAO et l'ONU dit engagés dans un projet conjoint pour répondre à cette nécessité. Le projet s'appelle OYA RDC. Il se focalise sur les filières de l'agro-industrie et du développement de l'esprit d'entreprise. Un atelier a été organisé mardi dernier à Kinshasa pour réfléchir sur la mise en place d'un noyau de jeunes et de femmes entrepreneurs dans l'agriculture et l'agro-business. Un centre hospitalier pour la police nationale congolaise à Kalemie, dans le Tanganyika. L'ouvrage a été construit et financé par la MONUSCO dans le cadre d'un projet à impact rapide et visible. La population civile environnante sera aussi bénéficiaire du service de ce centre hospitalier. Dans cette édition, vous suivrez le reportage sur l'inauguration de cet ouvrage avec Paulin Amunanga. C'est là le menu de ce magazine. Merci de votre attention.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour, nous sommes dimanche 2 octobre 2022 et l'actualité de ce jour part de Bounia en Ituri. Bounia où le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU, Kassim Diagne, a réaffirmé l'engagement de la MONUSCO à soutenir les efforts visant l'instauration de la paix dans le temps qui lui reste à passer en République démocratique du Congo. Le numéro 2 de la mission onusienne a salué les efforts des autorités provinciales de l'Ituri dans l'amélioration de la sécurité avec surtout la signature des acte de cessation des hostilités par quelques groupes armés locaux. Kassim Diagne a également encouragé les autorités ituriennes pour les opérations militaires contre les forces négatives sur l'axe Komanda Loa Mambasa. Suivez le représentant spécial adjoint au micro d'Ezekiel Mouzalia.
Notre détermination est intacte sur ce niveau-là. Je peux vous assurer qu'en tout cas, pour le temps qu'il nous reste et qui sera défini par l'autorité nationale, nous allons redoubler nos efforts en ce sens-là. Et c'est une frustration qu'on comprend. Évidemment, c'est pas de gaieté de cœur que nous voyons tous ces problèmes dans les territoires qui sont sous la menace de ces bandes armées. L'accompagnement, en tout cas, de la MONUSCO est total. Il y a encore des zones extrêmement difficiles, par exemple sur l'axe Komanda Lolwa, sur l'axe Mongalou, les zones de Kobu, etc. Et nous avons reconnu qu'il faudrait peut-être appesantir nos efforts et redoubler nos efforts dans ces zones-là. Évidemment, c'est des plans qui prennent du temps à matérialiser. Nous avons témoigné à l'autorité provinciale que la MONUSCO reste disposée et entièrement engagé à accompagner les efforts du gouverneur.
Restons encore en Ituri, cette fois avec le volet humanitaire. Environ 26 000 personnes reçoivent du programme alimentaire mondial PAM une assistance en vivres à Lita et Linga, ainsi qu'à Bélé, dans la province voisine du Haut-Touélé. Les bénéficiaires de cette aide sont des déplacés de réfugiés qui ont fui des attaques de groupes armés dans leur terroir. La distribution est assurée conjointement par l'ONG AGDEC, Association des jeunes pour le développement communautaire et Caritas Développement. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Cette distribution qui a démarré le 24 septembre dernier s'étend jusqu'au 30 de ce mois. Pour la zone de santé de Lita, par exemple, ce sont 2 419 ménages qui sont concernés. Ces derniers proviennent de plusieurs entités, dont Loga, Tché, Torgues et Singo, situées sur le littoral du lac Albert où opèrent des groupes armés. Pour les assister, le PAM a disponibilisé 124 tonnes de vivres, a indiqué le responsable de l'ONG AGDEC. Aimé Birido précise que c'est pour la première fois que ces personnes bénéficient d'une assistance en vivre. D'autres ménages ciblés, environ 6 306, sont ceux de la zone de santé de Linga où cette fois c'est l'ONG Caritas qui pilote cette distribution. Les bénéficiaires sont des habitants des localités de Gosenge, Bouba et Linga. Dans le territoire de Faradje, cette fois dans la province du Haut-Ouélé, précisément à Bélé, ce sont 211 ménages de réfugiés sud-soudanais qui reçoivent des vivres. Signalons que les personnes assistées reçoivent de la farine, de maïs, du haricot, de petits pois et de l'huile végétale. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Soutien multi-pays pour promouvoir les opportunités d'emploi pour les jeunes dans l'agro-industrie en Afrique. C'est un projet conjoint FAO-ONUDI qui a fait l'objet d'un atelier lundi 26 septembre 2022 à Kinshasa. Ce projet est une réponse à la nécessité d'accélérer les efforts dans la création d'emplois et l'autonomisation de la jeunesse congolaise. Jeff Opala a couvert pour vous les travaux de l'atelier.
Ce projet vise à catalyser un plus grand investissement dans l'agriculture en Afrique, en particulier pour soutenir la mise en œuvre d'initiatives d'emploi des jeunes en République démocratique du Congo. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, et l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, ONUDI, ont élaboré ce programme commun en réponse à un appel spécifique, celui de l'accélération des efforts dans les domaines de la création d'emplois pour les jeunes africains. La RDC fait partie des 6 pays cibles. Le programme s'appelle Projet Oya RDC et s'intéresse particulièrement aux filières de l'agro-industrie et du développement de l'esprit d'entreprise. L'atelier organisé sur les 10 programmes avait pour objectif de mettre en place un noyau ou de créer un réseau de jeunes et de femmes entrepreneurs dans l'agriculture et l'agro-business, enfin d'assurer leur autonomisation ainsi la promotion des emplois décents au profit des jeunes. L'objectif global de cette activité était de mettre en place un noyau pour la génération Oya RDC, c'est-à-dire créer un réseau de jeunes et des femmes entrepreneurs dans l'agriculture et l'agro-business pour assurer leur autonomisation ainsi que pour la promotion des emplois décents de jeunes. Explication de Nourou Makital de la FAO.
La jeunesse est l'un des plus grands atouts de l'Afrique. S'ils bénéficient d'un soutien approprié, les jeunes en âge de travailler seront les moteurs d'une croissance économique inclusive sur tout le continent et sur toute l'étendue de la RD Congo. Aujourd'hui, la majeure partie de la jeunesse africaine travaille dans le circuit informel en tant que main-d'œuvre familiale non rémunérée, agriculteur de subsistance, micro-entrepreneur à domicile ou travailleur non qualifié, ce qui entraîne une situation de très grande vulnérabilité. Dans les zones rurales où les offres de formation sont limitées, l'agriculture emploie près de 60% des jeunes âgés de 15 à 35 ans. Néanmoins, il existe un vivier important et inexploité d'opportunités d'emploi et de développement de l'entrepreneuriat dans certains segments des chaînes de valeur agricole et de l'agro-industrie. C'est dans ce cadre que la FAO et l'ONUDI ont élaboré ce programme en réponse à un appel spécifique à l'accélération des efforts dans le domaine de la création d'emplois pour les jeunes africains.
À l'issue de cet événement, un appel a été lancé par les panélistes à une implication active de tous pour le bien-être de la jeunesse dans l'agriculture et l'agro-business.
Dernière actualité de la semaine, le Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, et le Programme National de Santé de la Reproduction, ainsi que plusieurs institutions de la santé publique, ont célébré lundi 26 septembre à Kinshasa la Journée mondiale de la contraception. Le thème de cette journée en RDC était « Accès à une contraception saine et adaptée pour tous en République démocratique du Congo ». Objectif, faire connaître la contraception à toute personne et aux femmes en particulier en vue de faire des choix éclairés. Reportage.
La Journée mondiale de la contraception a réuni différentes couches de la société autour du plan stratégique national à vision multisectorielle de la planification familiale. Un moyen de reconnaître les nombreuses avancées dans le domaine de la planification familiale a indiqué le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbongani.
Ceci constitue pour nous l'occasion de faire connaître les nombreuses avancées dans le domaine de la planification familiale, ainsi que les valeurs fondamentales de service, d'intégrité et de professionnalisme dans l'offre de services de planification familiale en République démocratique du Congo. Pour rencontrer la vision du chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, président de la République, qui a prôné la gratuité des accouchements, ainsi que tous les soins pré- et post-natal.
Cette journée n'a pas laissé indifférent ce participant.
Ça aide à la santé des familles, la santé des femmes, la santé des enfants, même pour l'amélioration de l'économie du pays. En tout cas, c'est une très grande, c'est une très bonne intervention.
Notons que la clôture de cette activité a été sanctionnée par la vente des produits contraceptifs féminins et masculins.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la démocratie, la 15e de l'histoire de l'ONU, le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Abdulaziz Tioye, a dressé un bilan en mitigé de la démocratie en RDC, caractérisé certes par quelques avancées, comme il l'a reconnu lui-même. Il a également parlé des actions que mène son institution pour la promotion de la démocratie au Congo démocratique. Abdulaziz Tioye s'entretient avec Jeff Ngoy.
Bonjour Abdulaziz Tioye.
Bonjour.
À l'occasion de la célébration de la 15e année de la Déclaration universelle proclamant la démocratie dans le monde par les Nations Unies, que veut dire démocratie?
Comme vous l'avez dit, le 15 septembre 1997, la journée du 15 septembre est consacrée comme journée internationale de la démocratie. C'est une occasion, je pense, très très importante de s'interroger sur la démocratie et de s'arrêter un moment pour réfléchir et regarder le fonctionnement de nos sociétés qui sont prétendument démocratiques. Donc, parler de la démocratie, il revient à parler de ce que la célèbre phrase d'Abraham Lincoln, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Dire le gouvernement par le peuple souverain qui décide de sa vision, de son système de gouvernement, qui décide de sa vie économique et qui décide également de sa sécurité ainsi que de la gestion de sa vie quotidienne. Donc, vous pouvez comprendre que la démocratie, on la distingue de la monarchie, évidemment, qui est un système basé sur la volonté d'un individu et un système de transmission du pouvoir sur une lignée qui est beaucoup plus dynastique et sans égalité des chances. Donc, la démocratie, c'est la primauté du droit sur la volonté des individus ou d'un individu, c'est également le respect des droits de l'homme. Et nous, en tant que bureau des droits de l'homme, c'est l'élément pour nous le plus important. C'est l'interdépendance qui existe entre la démocratie et les droits de l'homme. Le respect de la liberté de la presse, la possibilité pour le peuple de se choisir ses représentants ou d'agir directement. Mais dans la majorité des systèmes que nous connaissons, des systèmes politiques qui existent dans le monde en général, il s'agit de démocratie représentative, c'est-à-dire le peuple qui ne peut pas décider compte tenu du nombre, mais qui décide de se choisir des représentants pour décider de la conduite au quotidien de la vie publique et de tout ce qui relève de son bien-être, de sa sécurité, et ainsi que de ses droits et de ses devoirs.
À ces jours, peut-on dire qu'il y a eu des avancées positives, des avancées considérables que le BCNUDH peut déceler concernant notre système démocratique?
Des avancées, oui. Je pense que si nous en sommes aujourd'hui à discuter ouvertement du respect ou non des droits et libertés, c'est parce qu'évidemment, il y a une liberté d'expression. Donc c'est ça aussi une caractéristique de la démocratie, la liberté de la presse. Je pense, après les élections qui ont amené l'alternance à la tête de ce pays, il y a eu une ouverture de l'espace politique. Nous avons vu la possibilité de la société civile pour les partis politiques de définitivement pouvoir manifester librement. Il y a eu par la suite des velléités de restrictions qui ont refait surface et qui ont fait à un moment donné craindre effectivement d'un retour en arrière. Les craintes sont toujours là, mais évidemment on n'est pas à la situation que nous avons connue il y a quelques années, notamment entre 2016 et 2017, où de façon très claire, il y a eu une répression sanglante des manifestations qui étaient organisées sur la voie publique. Pour l'heure, sans trop décerner un satisfecit, on peut dire qu'il y a un bilan plus ou moins mitigé des avancées qui méritent d'être consolidées et pour d'autres sur des aspects sur lesquels il faut nécessairement faire des progrès. Et dans cela, il y a des attentes assez fortes.
Planifier une action et renforcer la démocratie, c'est le thème de cette 15e année. Quelles sont les actions que le BCNUDH planifie concernant la promotion de la démocratie?
Nous travaillons beaucoup, nous sommes dans un rôle de comme bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui, comme vous le savez, est l'entité des Nations Unies en charge de tout ce qui est coopération technique pour accompagner les États à être plus ou moins en conformité avec leurs engagements, vous ratifier une convention. Nous devons vous aider techniquement à mettre en œuvre les dispositions de la convention. Donc, pas seulement les États, il nous faut travailler avec le Parlement. Comme vous le savez, nous travaillons beaucoup avec les autorités qui sont les détenteurs d'obligations. C'est-à-dire, quand l'État ratifie une convention et décide d'accorder les bénéfices des droits reconnus dans la convention à ses citoyens, c'est l'État qui a l'obligation de réaliser réaliser cela. Donc, nous sommes du côté de la redevabilité, c'est-à-dire aider l'État à véritablement être à niveau dans la satisfaction de ses obligations et leur mise en œuvre. Nous soutenons également le côté des bénéficiaires, ceux qui détiennent des droits, citoyens, pas les citoyens individuellement, mais à travers les structures qui les représentent. C'est la société civile, dont de renforcer leurs capacités, de manière à les accompagner, à pouvoir eux-mêmes développer un plaidoyer, un dialogue qui leur permette de s'engager avec les autorités, ce qu'on appelle augmenter les capacités de réclamation.
La 15e année de la proclamation universelle de la démocratie par les Nations Unies coïncide avec la crise de la COVID-19 qui a presque entraîné des défis à l'échelle mondiale, des défis majeurs sur le plan politique, sur le plan social et juridique. Comment peut-on renforcer la résilience démocratique face aux prochaines crises?
Je pense que la COVID-19 nous a pris deux bonnes années. On ne s'en rend pas compte que beaucoup de choses se sont passées. La COVID-19 a favorisé quelque peu une crise du multilatéralisme. Certains États se sont refermés sur eux-mêmes. Les disparités et les inégalités sociales et économiques se sont accentuées, ce qui est aussi un élément non négligeable. Et la COVID-19 aussi a été une occasion pour certains pays, certains régimes, de restreindre davantage les droits et libertés. On l'a vu, et d'ailleurs la haute commissaire a beaucoup insisté là-dessus pour rappeler à certains États la nécessité de s'abstenir dans le contexte, sous prétexte de lutter contre la pandémie, de restreindre les droits et libertés. C'est ce qu'on a vu dans beaucoup de pays où les gens étaient confinés, ne pouvaient pas sortir. Les manifestations étaient interdites, certaines activités, beaucoup d'atteintes à la vie privée sous prétexte de confinement. C'est très très compliqué et également une explosion des violences domestiques. Toutes les leçons apprises de la COVID-19, je pense, doivent servir pour faire différemment. Donc, et ça nous ramène encore une fois sur l'interdépendance. Un système démocratique est un système aussi qui crée les conditions pour que ses citoyens puissent jouir de tous leurs droits, civils et politiques, mais droits économiques, sociaux et culturels. Et en cela, pour le faire, il faut créer un environnement qui permette une expression libre et démocratique.
Abdulaziz Choy, je vous remercie.
En plus bref, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, salue l'action coordonnée qui a permis de contenir efficacement l'épidémie d'Ebola qui avait ressurgi le 16 août 2022 à Beni, au Nord Kivu. Dans un communiqué daté du 27 septembre, le représentant de l'UNICEF en RDC, Grant Lelty, a rappelé que les équipes de son agence étaient également sur le terrain pour contribuer à ces efforts. L'UNICEF est engagé à soutenir le gouvernement de la RDC pour renforcer la résilience du système de santé et s'assurer que les familles et les enfants soient protégés contre les ravages d'Ebola, a indiqué le représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo. Autre nouvelle, 1,56 milliard, c'est l'enveloppe que la Banque mondiale a décaissée en faveur de la République démocratique du Congo sur un portefeuille crédit de 6,15 milliards, soit un taux de décaissement de 25%. Il reste ainsi à décaisser 4,35 milliards de dollars américains. En ce qui concerne le volet dons, Kinshasa a pu bénéficier également de 165 779 193 dollars américains sur un portefeuille de 248 200 000 dollars. Bouclons cette page en nous rendant à New York. Antonio Guterres exhorte les gouvernements du monde à créer des emplois décents et à fournir une protection sociale à leurs populations respectives. Cet appel du secrétaire général de l'ONU est contenu dans un communiqué de presse daté du 27 septembre 2022. C'est au cours d'une session de haut niveau consacrée à l'initiative globale Accelerator on Jobs and Social Protection for Just Transitions, accélérateur mondial pour l'emploi et la protection sociale pour des transitions justes organisées en marge de la 77e Assemblée générale des Nations Unies à New York.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
La journée internationale du tourisme est célébrée le 27 septembre. Cette année, la journée a été placée sous le thème « Repenser le tourisme ». Le magazine des Nations Unies va donc à Goma, au Nord Kivu, où en marge des activités liées à ce thème, Gédéon Bakereti a fait état des défis et des opportunités que représente le tourisme dans la région autour du parc national de Virunga. C'est dans un entretien avec Bernard Denyangi.
Monsieur Gédéon Bakereti, bonjour. la journée mondiale des tourismes cette année est commémorée sous le thème « Repenser le tourisme ». Pourquoi d'abord ce thème et qu'est-ce que ce thème peut représenter dans le contexte, par exemple, de notre région?
Exactement. Et ce qui est important pour cette année, le thème est « Repenser le tourisme », c'est-à-dire essayons de retourner nos pensées, nos réflexions sur le tourisme, parce que c'est un secteur qui semble être oublié dans notre pays, alors que la République démocratique du Congo, c'est un pays de méga biodiversité qui possède des merveilles dans le secteur du tourisme. Les merveilles que nous avons vraiment vaut des forêts aux animaux. Nous avons des montagnes. Notre pays renferme la troisième montagne la plus haute d'Afrique, le mont Rwenzori, avec les neiges, les glaciers, mais aussi les espèces animales qui sont introuvables même au monde. Nous avons les okapis dans la réserve de Maïko, mais il y a des gorilles, des montagnes et des plaines, des montagnes qu'on trouve dans les parcs de Virunga, mais aussi des plaines dans les Kahuzi-Biega. Nous avons les bonobos, les chimpanzés et autres espèces rares comme les pas congolais. Donc, toutes ces richesses nous arrive à penser aujourd'hui que notre pays, c'est un pays où l'industrie touristique peut générer des recettes et participer au développement.
Et alors, quel est l'appel que vous, comme acteur de l'environnement, avez à l'égard des autorités de la RDC, par exemple, en cette occasion?
Donc, à l'occasion de cette journée, j'ai lancé encore une fois l'appel aux autorités de voir ces potentialités touristiques. Vous savez, l'industrie touristique participe dans d'autres pays au développement. C'est-à-dire les recettes qui génèrent l'industrie touristique dépassent même les mines. Et avec tout ce que je vais vous dire, ces potentialités touristiques, par exemple la ville de Goma, elle est la ville touristique, elle est meilleure quand les touristes arrivent, ils sont émerveillés. Ils payent les taxes, les visas et l'argent va entrer dans la caisse de l'État. L'enseignant, les militaires seront payés. Donc, nous devons arriver à réfléchir comment capitaliser ce secteur pour que ce secteur participe au développement de notre pays.
Et au sujet effectivement des défis, quels sont les plus majeurs que vous pouvez relever en cette occasion?
Mais il y a beaucoup de défis et ces défis relèvent de la sécurité dans les zones où les touristes peuvent venir voir. Les touristes se limitent dans des pays voisins parce que là il y a la paix, mais chez nous, il est rare que les touristes viennent, que les touristes arrivent observer les merveilles de la RDC. Donc, nous devons réfléchir sur comment réhabiliter nos routes, viabiliser nos hôtels, mais aussi sécuriser les sites touristiques. Et j'ai toujours dit, quand un touriste arrive pour voir le volcan Nyiragongo, il laisse l'argent. Quand un touriste, ce n'est pas gratuit. Mais aussi, un autre défi, c'est nous les Congolais. Nous pensons que le tourisme revient seulement aux étrangers. Non, nous devons aussi arriver à susciter encore le goût à la jeunesse, de connecter la jeunesse à la terre, à l'environnement, que les enfants viennent visiter les parcs de Virunga, viennent visiter nos richesses, surtout les promenades. Pourquoi? Dans les années qui passaient, on amenait les élèves visiter les animaux. C'est vraiment inconcevable de voir aujourd'hui que nos enfants qui vivent en RDC voient l'éléphant, les gorilles, les okapis dans la télévision ou sur les journaux, alors que c'est à de quelques mètres là où nous vivons. Donc, messieurs les journalistes, à l'occasion de cette journée mondiale du tourisme, nous demandons à tout le monde de s'impliquer pour que le secteur du tourisme soit un secteur générateur de recettes et que les recettes puissent participer et rafler les trésors publics et participer au développement de la République démocratique du Congo.
Monsieur Gédéon, merci.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes.
En Nouvelle-de-Provence, nous allons à Kalemie, dans le Tanganyika, où il y a eu inauguration d'un centre hospitalier construit pour la police nationale congolaise. Il s'agit d'un projet à impact rapide financé par la MONUSCO et dont bénéficiera aussi la population civile environnante. Les travaux ont été exécutés par l'ONG Action Citoyenne pour la Paix et le Développement. Pour la Munanga, reportage.
Cette formation sanitaire est dénommée Centre hospitalier de référence générale Yav Mukaya, du nom du commissaire provincial provincial de la police du Tanganyika. Le bâtiment qui abrite le centre hospitalier est constitué d'un laboratoire, d'une infirmerie, d'une salle de consultation, d'une maternité avec salle d'accouchement, d'une salle d'opération, d'une pharmacie, d'une salle d'hospitalisation pour les hommes et pour les femmes, d'un hall de dégagement ainsi que d'un bloc sanitaire composé de toilettes et douches. Le commissaire provincial de la police du Tanganyika exhorte le gouvernement provincial et les partenaires à équiper en matériel et en médicaments ce centre hospitalier. Général Yav Mukaya.
Nous demandons à ce que ce genre de projet ne se limite pas qu'à Kalemi. Même cela s'étend au niveau des territoires de la province. Et sollicitons aussi au gouvernement provincial et à nos partenaires un appui en matériel et en médicaments pour permettre aux services de santé d'accomplir sa mission. Car les centres hospitaliers sans équipement médical, c'est une maison d'habitation.
Au cours de la cérémonie, le représentant du chef de bureau de la MONUSCO Kalemi a rappelé que la MONUSCO va parachever tous les projets en cours sous son financement dans la ville de Kalemi. Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Le 21 septembre, c'était la commémoration de la Journée internationale de la paix. Comment la femme de Beni a-t-elle jugé cette journée? La question a été posée à Maître Patience Sinamouli Kavira, point focal du collectif des associations féminines pour le développement, CAFD en sigle. Suivons sa réponse.
La femme de Beni a une image sombre par rapport à cette journée. Parce que si on demandait à la femme de Beni de célébrer la paix, c'est lui demander une chose à son contraire. Parce que les atrocités continuent à s'aggraver du jour au lendemain. Nord Kivu et Ituri, on dirait que c'est devenu un autre monde, à part le monde entier, vu les atrocités que nous sommes en train de vivre. Et hier même, vous l'avez attendu, on a encore ressenti de véhicules, les gens ont été encore massacrés. Bon, nous demandons si nous sommes toujours aussi dans le monde là qui célèbre cette journée mondiale de la paix. Donc la ville de Beni, Beniville et territoire, cette journée vraiment elle est tellement sombre pour nous parce que nous continuons toujours à pleurer les nôtres qui nous ont précédés. Nous voyons combattants qui ont laissé leur peau sur les champs de bataille. Nos jeunes gens, les garçons, les papas, les mamans qui ont perdu leur vie dans différentes marches à vouloir chercher la paix. Nous ne sommes pas encore vraiment à ce niveau-là de célébrer cette journée mondiale de la paix. La femme de Beni pourra valoriser cette journée peut-être dans les jours qui viennent. Parce que là, nous sommes en train d'encourager les efforts qui sont menés par-ci, par-là, pour que la paix revienne chez nous. Et nous n'attendons qu'elle est palpable. Le jour où nous allons palper du doigt que vraiment la paix est revenue chez nous, ceux-là qui partaient au chat, ils partent et reviennent, c'est sauf. Les commerçants font leur commerce, c'est sa difficulté. Et tout le monde pourra vaquer à ses occupations sans aucune contrainte. Là, on dira que vraiment la paix est revenue chez nous. Et à ce moment-là, la femme de Beni pourra se valoriser cette journée et la commémorer dans les jours qui viennent.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Quelques dates à retenir dans vos agendas pour la semaine qui commence. Le 4 octobre, c'est la journée mondiale de l'habitat. Le 5 octobre, journée mondiale des enseignants. Le 7 octobre, journée mondiale du coton. Et enfin, le 8 octobre, journée mondiale des oiseaux migrateurs. Et fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur le site www.radiokapi.net. Merci de votre attention. Merci aussi à Mimi Kindou qui en a assuré la coordination technique. Je suis Babel Pongo Massimango. C'est avec un grand plaisir, comme d'habitude, que je vous ai présenté cette émission produite, coordonnée et réalisée par Honoré Missinga Kalala. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix. Quant à l'équipe du magazine des Nations Unies, eh bien, elle vous fixe un nouveau rendez-vous dimanche prochain. Portez-vous bien.